Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette derrière le micro, là, avec vous pour les 30 prochaines minutes. Et j'espère qu'en deuxième partie d'émission, on arrivera à vous faire rire un petit peu. Est-ce que vous aimez rire? En fait, je connais personne qui me dirait, moi, oh, moi, rire, j'aime pas trop ça. Mais est-ce que vous avez le rire facile? Combien de fois vous riez par jour? Moi, personnellement, j'ai l'impression que plus je vieillis, moins je ris, ce qui est un petit peu plate. Et pourtant, ça appuie tout ça. Une étude qui révèle qu'en 1939, les adultes riaient environ 20 minutes par jour, contre 6 en 1980, donc il y a à peu près une trentaine d'années. Et maintenant, chaque personne ne rirait en moyenne que 3 minutes par jour. Et pourtant, les bienfaits du rire sont nombreux. Bien, ça procure un sentiment de bien-être assez immédiat. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Mais aussi, ça contribuerait à combattre le stress et ça amènerait un tas d'autres bienfaits. On pourrait croire que rire, ça vient facilement, bon, une blague, une situation un petit peu humoristique. Et pourtant, c'est pas toujours si facile. Il y a le yoga du rire qui fait de plus en plus d'adeptes. J'en parlerai tout à l'heure avec Sylvie Dagenais-Douville. Elle est fondatrice de l'Institut du rire et professeure de yoga du rire, également conférencière. Également, vous dire ou vous rappeler que le 1er avril dernier, donc en 2015, le CHU Sainte-Justine annonçait la création de la chaire de recherche en déficience intellectuelle Jonathan Bouchard, une première ici au Canada, une initiative pour les 160 000 Québécois touchés par la déficience intellectuelle et leur entourage qui, j'imagine, a suscité beaucoup d'intérêt, générateur de beaucoup d'espoir. C'est une chaire aussi qui offre une visibilité dans le système de la santé parce que la cause de la déficience intellectuelle, ben, c'est souvent pas encore diagnostiqué auprès des jeunes enfants. Donc, l'absence de diagnostic clair, ça engendre, et on l'imagine assez facilement, beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété auprès des parents, et ça écarte toute possibilité de traitement. Comment on peut mieux comprendre la déficience intellectuelle afin de mieux encadrer les familles, les personnes touchées par la déficience intellectuelle? Donc, j'en parle avec le docteur Jacques L. Michaud, lui, titulaire de cette chaire de recherche en déficience intellectuelle, Jonathan Bouchard. Docteur Michaud, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Merci d'être là avec nous. Bientôt, cette chaire de recherche soufflera sa première bougie hein, dans quelques jours. Quel est peut-être le constat qui a été fait dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire, Docteur Michaud?
En fait, nous commençons à peine des travaux de la chaire. Donc, c'est vraiment une chaire qui est centrée sur deux volets, comme je vous mentionnais, c'est-à-dire un volet qui vise à améliorer nos capacités à trouver la cause des différentes formes de déficience intellectuelle. Et on utilise de plus en plus des outils basés sur l'exploration de tout le génome, parce que la génétique joue un rôle important dans au moins 80% des familles où on trouve la déficience. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les technologies de la génomique, c'est-à-dire d'étudier l'ensemble des 20 000 gènes d'emblée pour essayer d'augmenter notre capacité d'identifier les causes. Donc, il y a ce volet-là. Puis l'autre volet, c'est vraiment sur la base de la connaissance de ces gènes, d'essayer de comprendre leurs fonctions et de développer des stratégies de traitement qui seraient adaptées à chaque enfant.
Parce que maintenant, en 2016, là, plutôt, on ne connaît toujours pas les causes ou la cause de la déficience intellectuelle.
Bon, on en connaît. On peut expliquer plus de la moitié des enfants ou adultes avec déficience. On peut expliquer la déficience chez plus de la moitié des familles. Et comme je vous dis, on pense qu'il y a à peu près 20% des cas où il y a un facteur environnemental, que ce soit une méningite sévère, une exposition pendant la grossesse à un agent qui est nocif. Donc ça explique la minorité des cas. La plupart des cas, mettent en jeu des facteurs génétiques qui peuvent ne pas être hérités dans la famille. Donc ça, c'est un concept très important. Parce que plus les formes sont sévères, moins vont encore des formes héritées aussi, mais parce que les gens, les familles souvent on sont un peu étonnés lorsqu'on parle de génétique alors qu'il n'y a pas d'histoire dans la famille. Donc parfois on peut être porteur d'un gène qui prédispose à la possibilité d'avoir un enfant en temps, mais aussi il y a ce concept des mutations spontanées, des mutations qui ne sont pas héritées par les parents, qui apparaissent chez l'enfant et qui représentent probablement la cause principale de déficience. Mais globalement, on connaît la cause près un peu plus de la moitié des cas, et la capacité à poser un diagnostic s'améliore rapidement avec une nouvelle technologie, et on espère que au cours des prochaines années, on pourra identifier la cause chez la majorité des enfants.
Donc, pour bien faire la distinction, on peut dire que la déficience intellectuelle, c'est de la faute ou due à des gènes, mais ça ne veut pas dire que c'est héréditaire, donc que ça nous vient de nos parents.
C'est exactement ça. La cause principale, la cause génétique principale, sont vraiment des anomalies génétiques qui surviennent spontanément chez l'enfant. Mm-hmm. Et l'idée, c'est que notre génome est plastique, est continuellement en train de se remanier. Il y a des erreurs qui apparaissent continuellement chaque fois qu'une cellule se divise. Et qu'il y a la grande majorité de notre patrimoine génétique est hérité de nos parents, mais il y a des petites fautes d'orthographe, des changements qu'on trouve chez tout le monde. On est tous avec des petits changements dans nos génomes qu'on trouve pas chez nos parents, qu'on ait une histoire familiale de déficience ou non. Et parfois, ces erreurs, ces changements génétiques vont toucher des gènes qui sont importants pour le développement du cerveau. Et donc, c'est un peu une loterie et personne n'est à l'abri de ça. Et c'est vraiment pas, dans la majorité des cas, un facteur qui est hérité dans la famille. Par contre, il y a des formes vraiment héréditaires où le gène s'exprime pas chez les parents pour toutes sortes de raisons. Là, mais les parents peuvent être porteurs et le risque... Il peut avoir un risque de récidive lors de la grossesse subséquente.
Et lorsqu'un médecin fait le diagnostic d'une déficience intellectuelle, est-ce qu'il le fait par des signaux amenés par l'enfant ou c'est vraiment en identifiant les gènes?
La grande majorité des cas, c'est vraiment, le mode de présentation, c'est vraiment celui du retard de développement. C'est-à-dire qu'un enfant, les parents notent que l'enfant tarde, par exemple, à marcher ou à parler. Et c'est généralement ce mode de présentation qui va amener les parents à consulter et ça va culminer souvent dans des explorations génétiques dans le deuxième temps.
Oui. Docteur Michaud, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant en disant que souvent, la déficience intellectuelle, c'était un peu une face cachée, invisible dans le système de la santé et que, bon, oui, peut-être parce que ces personnes-là ne sont pas malades, elles vivent avec une déficience intellectuelle, mais elles ne vont pas en mourir, mais que pourtant, tout ça a un grand impact pour la société. Il y a aussi, j'imagine, un impact sur la santé, autant de la personne touchée, mais des familles.
Oui, alors c'est vrai que c'est une problématique qui n'a pas beaucoup de visibilité au sein du système de santé, au moins au sein des hôpitaux, là, au sein du système de santé plus large, c'est assez présent, mais comparativement à une condition comme l'autisme, qui a beaucoup de visibilité, la déficience, on en parle très peu, alors que sont deux conditions qui souvent coexistent et qui parfois touchent les mêmes gènes. Alors, il y a une question de perception et c'est vrai que si vous avez un enfant qui a peu de problèmes associés, c'est-à-dire que lorsqu'on a une déficience intellectuelle, on augmente le risque d'avoir une problématique associée, que ce soit l'autisme, mais aussi l'épilepsie, qui peut exiger des interventions médicales assez soutenues. Ben, si un enfant a une déficience sans ces autres problématiques, généralement, il va se trouver, c'est plus la prise en charge dans les milieux dans les CRDI ou dans les milieux scolaires que la prise en charge va se faire et moins dans les hôpitaux. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui, peut-être ma perception à moi, mais j'ai l'impression que c'est une problématique qui est moins visible au sein des systèmes, des hôpitaux, là, c'est certain.
Oui. Mais ça a des impacts sur les enfants, sur les familles. Quels sont les impacts sur la santé globale d'un individu qui est touché par la déficience intellectuelle?
Ouais, c'est une question difficile parce qu'en fait, il y a probablement plus de 1000 gènes différents qui peuvent causer la déficience. Et donc, il y a des formes qu'on dit syndromiques qui sont associées à d'autres problèmes. Par exemple, la trisomie 21 est associée à un risque de malformation cardiaque. Et ces malformations cardiaques peuvent causer des problèmes de santé qui peuvent même amener à une chirurgie à cœur ouvert. Dans certains cas, il y a d'autres enfants qui sont à risque d'avoir une épilepsie très sévère, difficilement contrôlable, ce qui amène aussi une prise en charge médicale assez lourde. Donc, il y a des maladies plus rares qui peuvent causer une déficience, mais qui sont associées aussi à des risques de développer des compensations métaboliques, là, avec coma. Les enfants peuvent perdre la conscience, ils se retrouvent en coma parce que leur maladie n'est pas bien contrôlée. Donc, il y a toute une. On parle de déficience en ayant référence sur peut-être une image unique, mais en fait, il y a plein de volets différents. Et même les enfants qui ont une forme de déficience non syndromique, ça peut être très variable d'un enfant à l'autre, avec des problèmes de comportement plus sévères chez un, chez l'autre moins, des problèmes de cognition, d'apprentissage, mémoire peut-être plus sévère. Donc, c'est très, très hétérogène. Et d'où l'importance d'identifier la cause, parce que on avait dans le temps tendance à traiter tous ces enfants-là un peu de la même façon, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une très grande hétérogénéité. Et si on connaît la cause, ben, ça offre l'espoir d'avoir une approche qui est plus adaptée, plus personnalisée, avec l'espoir d'améliorer le devenir de ces enfants.
Oui. Donc, connaître la cause pourrait aussi aider à prévenir. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de possible?
Bien, l'idée, c'est que quand vous avez un enfant, comme vous le mentionnez au tout début, quand on vous annonce que l'enfant a un retard de développement ou a une déficience, c'est sûr qu'il y a un millier de questions qui se posent aux familles, aux parents. La première question, c'est la question de la cause. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et donc, il y a justement un sentiment de culpabilité qui est clairement illégitime là, dans la plupart des cas, mais c'est quelque chose qui est très présent, et souvent chez les mères en particulier, que j'ai dû faire quelque chose pendant la grossesse. Donc, l'idée d'arriver avec un diagnostic, c'est de permettre de soulager, d'évacuer ce problème-là. Mm-hmm. Avec l'importance de trouver la cause aussi, ça amène les familles à passer les enfants à subir toutes sortes de tests, des résonances magnétiques, des ponctions lombaires, des biopsies, des tests génétiques. L'idée d'arriver à un diagnostic très rapidement, ça permet de passer à autre chose. On laisse tomber toute cette odyssée diagnostique-là. Puis donc, l'idée d'un diagnostic, ça permet de soulager un peu l'anxiété, dans une certaine mesure, mais ça permet aussi de passer à autre chose, de focaliser notre énergie sur l'enfant. Et le diagnostic aussi permet peut-être, dans certains cas, puis j'espère dans une proportion grandissante d'enfants, d'arriver à élaborer des stratégies de prévention secondaire. C'est-à-dire que si un enfant est à risque sur la base de connaissance du gène de, par exemple, développer une surdité ou une épilepsie, on fait de la prévention. On espère un jour qu'il y aura des traitements plus spécifiques pour l'épilepsie qui seraient dépendraient de la connaissance du gène. Et à l'école, s'il y a des troubles de comportement ou des difficultés d'apprentissage spécifiques, on peut, sur la connaissance d'autres enfants qui ont la même condition, arriver possiblement des stratégies qui sont plus adaptées, plus optimales. Et évidemment, l'espoir, c'est d'améliorer la vie, le bien-être de ces enfants-là. Alors, parfois, c'est sûr c'est souvent une problématique de déficience qui est trop isolée, donc ils ont ces problèmes médicaux que je mentionnais, mais aussi il peut y avoir des troubles de comportement qui peuvent être assez importants, pas chez tout le monde, mais parfois il y a des troubles d'opposition assez importants, des problèmes d'agressivité chez une minorité, mais quand même ça peut poser des problèmes d'attention, des problèmes de tic, etc. Donc tous ces problèmes associés au comportement, et lorsqu'on parle de traiter, il y a l'espoir aussi d'améliorer peut-être les capacités d'apprendre, à acquérir une certaine autonomie, mais peut-être aussi à contrôler tous ces autres problèmes associés, ce qu'on appelle les comorbidités, qui ont une tonalité parfois plus médicale, parfois plus, si vous voulez, comportementale. Mm-hmm. Mais pour l'instant, il y a juste une petite minorité de formes de déficience qui sont traitables ou qu'on peut prévenir.
Oui. Et par traitement, vous pensez à un médicament, à une thérapie? Comment ça pourrait se révéler, ce traitement-là?
Il y a beaucoup de formes de déficience actuellement qui sont traitables parce que ce sont des maladies métaboliques, des erreurs innées du métabolisme. Ce sont des maladies où il y a une enzyme qui est déficiente, et on peut contourner la déficience de cette enzyme-là, la traiter en donnant à l'enfant une diète très spécifique.
Okay.
Et donc, il y a beaucoup d'enfants, qu'on appelle ça des maladies métaboliques, donc il y a beaucoup d'enfants au Québec qui sont suivis. Et un exemple, c'est la phénylcétonurie, c'est dépisté. Tous les nouveaux-nés du Québec sont dépistés. Et si un enfant est dépisté, on lui offre cette diète-là qui lui empêche de développer une déficience. Et donc, une diète spéciale. Donc, il y a plusieurs exemples, il y a de plus en plus d'exemples de ces conditions, de ces maladies métaboliques où une diète spéciale ou l'administration d'une vitamine ou d'un produit naturel qui permet de contourner la déficience. Dans tous les cas, ne va pas nécessairement guérir l'enfant, mais peut certainement diminuer l'impact de la maladie. Mm-hmm. Alors, l'autre, maintenant, c'est une minorité des formes de déficience qui peuvent bénéficier de ce genre de traitement. Il y a beaucoup d'intérêt en recherche maintenant pour identifier des petites molécules qui permettraient de traiter spécifiquement, vraiment spécifiquement la déficience. L'exemple, c'est le syndrome du X fragile, qui est une des formes fréquentes de déficience intellectuelle. Le gène est identifié il y a près de 20 ans maintenant. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la fonction du gène, puis sur la base de ces connaissances-là, il y a une stratégie qui a été développée, qui a été validée dans des modèles animaux, où on a pu montrer que l'administration de petites molécules peut permettre de diminuer, améliorer corriger les déficits d'apprentissage et de mémoire. Puis il y a eu un grand essai clinique récemment qui a été fait chez l'humain et qui n'a pas permis de montrer que le médicament fonctionnait. Donc, une grande déception, mais c'est une première. C'est la première fois où on avait utilisé cette approche raisonnée pour arriver à un traitement. Maintenant, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent cet échec-là et je pense pas qu'on a dit notre dernier mot et peut-être qu'il faut commencer le traitement plus tôt. Et bon, il y a toutes sortes d'enjeux, donc je veux pas qu'on se laisse sur une note négative, mais ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a des efforts dans ce sens-là d'arriver à, sur la base de la connaissance du gène, arriver à des traitements qui sont vraiment spécifiques, qui sont raisonnés, qui visent justement à contrecarrer l'effet du gène. Il y aura des formes qui vont peut-être être amenables, comme possiblement ce syndrome du X fragile, à une thérapie qui est très spécifique, qui met en jeu une petite molécule, un médicament. Puis il y a d'autres formes qui vont être plus difficilement traitables. Donc c'est pas, et au tout début de ça, là, pour l'instant, la bottom line, là, la conclusion, c'est que ça reste une condition qui est pas traitable. Par contre, ça peut dire qu'on peut rien faire. C'est sûr que tout ce qui est stimulation via la physiothérapie, les stimulations par les psychoéducateurs, la ergothérapie, l'orthophonie, ça fait une différence parce que le cerveau de l'enfant, comme vous savez, est très plastique et plus on intervient tôt, ça c'est vraiment le modus de toute la déficience, et plus on intervient tôt, plus on a de chances d'améliorer le sort des enfants. Et donc ça, il faut, comme n'importe quel autre enfant, les enfants avec déficience bénéficient de ces programmes de stimulation.
Mm-hmm. Jacques Helmichon, on ne se laissera pas sur une note tristounette, parce que je veux que l'on parle, avant de se quitter, de cette chaire de recherche en déficience intellectuelle Jonathan Bouchard, la première au Canada, et c'est grâce à la Fondation Sandra et Alain Bouchard. Quels seront ou quels sont les impacts de cette chaire? Parce que, je le disais en introduction, ça génère évidemment probablement beaucoup de curiosité, beaucoup d'espoir aussi chez les familles touchées par la déficience intellectuelle.
Bien, on a décidé de focaliser les travaux de la chaire sur justement ce que je mentionnais tout récemment, là, c'est-à-dire l'idée de partir de la connaissance d'un gène qui est impliqué dans la déficience et pour comprendre la fonction du gène pour arriver à un traitement. Donc, on a identifié deux gènes sur lesquels on a décidé de porter notre attention. Ce sont des gènes qui sont relativement fréquemment touchés là, dans la population québécoise ou ailleurs dans le monde. Et donc, on a choisi ces gènes-là, puis pour ces raisons-là, mais aussi parce que ce sont des gènes dont on a l'espoir qu'ils pourraient peut-être être associés pourraient découler sur des traitements spécifiques. Donc, on a monté toute une équipe, on a essayé d'impliquer pas juste des gens de Sainte-Justine, mais des gens de d'autres centres pour essayer vraiment d'avoir un travail collectif pour arriver à développer au moins les preuves de principe qu'on peut avancer. Et ce aussi, sont aussi des gènes qu'on a choisis parce qu'ils agissent le long de voies biochimiques qui sont aussi touchées par d'autres conditions, d'autres formes de déficience. Et donc, on espère qu'en arrivant à développer des stratégies pour traiter cette forme-là, on aura un impact plus large là, que sur ces simples formes-là.
Et une façon de mieux encadrer les familles aussi, de les soutenir dans ce cheminement-là.
Oui, exactement. Par ailleurs, à Sainte-Justine, et puis ailleurs aussi au Québec, il y a beaucoup d'intérêt pour utiliser la génomique, c'est-à-dire le séquençage de tous les gènes pour arriver à des diagnostics. Et ça, c'est pas des travaux qui sont liés à la chaire, mais des travaux sur lesquels je travaille, mais d'autres chercheurs au Québec. C'est l'idée d'utiliser le séquençage de tout le génome, des 20 000 gènes d'emblée en clinique pour arriver au diagnostic le plus vite possible. Et ça, c'est une autre dimension de mes travaux, mais qui sont qui sont pas touchés par la chaire, Jonathan Bouchard.
Oui, parce que je n'ai pas nommé toutes vos fonctions tout à l'heure, Dr. Michaud, parce que il y en a beaucoup. Vous êtes titulaire de cette chaire de recherche en déficience intellectuelle, Jonathan Bouchard, mais également chef de service de génétique médicale au CHU Sainte-Justine et bien d'autres choses. On m'avait dit que vous étiez un très bon vulgarisateur. Eh bien, c'est maintenant confirmé, Dr. Michaud. Merci beaucoup de ces éclairages, de ces lumières sur la déficience intellectuelle et on suivra de près vos recherches dans les prochaines années.
Merci beaucoup, Mme Paquette.
Au revoir.
Bon après-midi. Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Sylvie Dagenais-Douville, bonjour.
Oui, bonjour, Mme Paquette.
Vous êtes fondatrice de l'Institut du rire, professeure de yoga, du rire et conférencière. Je le disais tout à l'heure en introduction, lorsque l'on rit, là, que l'on a un bon fou rire, là, on ne peut pas nier les effets très, très rapides de sentiments de mieux-être. Donc, j'imagine que c'est un petit peu ça qui est amené comme philosophie à travers le yoga du rire.
Tout à fait, mais encore plus, ça, c'est en surface, là,
ah,
mais
oui.
Quand on se rend compte encore, on va plus loin pour voir jusqu'où vont les bienfaits. Alors.
Il y en a plusieurs. Premièrement, Sylvie, c'est quoi le yoga du rire?
Ben, c'est ça, je pourrais vous dire, là, la définition, finalement, là, c'est quand on parle du yoga du rire, on parle d'un concept unique où on arrive à rire sans dépendre d'humour, de blague ou de comédie. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'on veut toujours bien distinguer le yoga du rire de ça. Pas parce qu'on est en contre l'humour, là, mais disons qu'on ne s'est pas basé sur l'humour.
Est-ce que c'est un concept, ben, en fait, plutôt une discipline qui nous vient de l'Inde comme le yoga tel qu'on le connaît?
Tout à fait. C'est un médecin des Indes, là. C'est Dr. Madan Kataria qui a développé le concept aux Indes. Ça fait depuis 1995. La première fois que ça s'est tenu dans un parc là-bas. Et ça continue de grandir parce que finalement, il y a un lien aussi qu'on ignore là, parfois, c'est que lui, son objectif, c'est que d'amener le rire. Avec le rire, on amène la paix dans le monde.
Ah,
alors,
oui.
On mm-hmm. sait que surtout avec des journées là, comme hier,
ouais.
c'est quelque chose, là, ça commence facilement par le rire.
Oui, et le rire, en plus, ça n'a pas besoin de paroles, donc ça peut être servir beaucoup à nous réunir. C'est assez universel, le rire, à quelque part.
Oui, mais exactement, ça nous connecte tous, là, et puis on rit tous dans la même langue. Finalement.
Tout à fait. Donc, si on ne fait pas appel soit à de la comédie ou à des blagues, quelles sont les techniques utilisées en yoga du rire?
Moi, j'amène beaucoup mes participants à penser au rire comme une forme de respiration, finalement, parce que c'en est une. Et puis, alors, c'est ça, c'est des exercices qu'on arrive à faire. On crée une espèce on crée un conditionnement. Je vous dirais qu'il y a des étapes là-dedans. On a un refrain. Et puis, dans le refrain, on arrive là à recréer refrain, je veux dire, dans le sens de mantra, avec des exercices, on tape dans les mains, et finalement, c'est pour conditionner, préparer notre corps au rire. Et plus on le met en pratique, on va souvent le comparer au principe là, de Pavlov, plus on met ce conditionnement-là en pratique, plus le corps va reconnaître que la prochaine étape, bien, c'est le rire.
Oui.
Alors, c'est vraiment, c'est dans ce rituel-là, si on veut, là. Et de penser aussi que c'est au-delà du rire, on s'en va aussi de reconnecter avec notre cœur d'enfant. C'est un lâcher-prise dans le rire. Alors, les gens ne réalisent pas toujours ça. Mais quand on va dans le rire, ce qu'on appelle yoga du rire, le rire sans raison, il y a un lâcher-prise et puis on retourne, on se donne la permission de ne pas se prendre au sérieux, on se donne la permission de rire dans des moments pas toujours faciles non plus.
Oui, parce que, et ça m'amène à cette prochaine question, pas toujours facile parce que les gens que vous suivez sont des gens qui traversent des cancers ou qui peuvent avoir d'autres types de maladies.
Exactement. Donc, avec les gens qui ont eu un diagnostic de cancer et leur famille, parce que c'est toujours bien aussi d'amener ça avec les gens qui les entourent aussi. Tout en apprenant à pratiquer le yoga du rire, on leur donne aussi la permission de rire encore avec ceux qui les entourent, parce que souvent, quand on a quelqu'un autour de soi qui a un diagnostic de cancer, tout devient sérieux, puis c'est normal, mais en apprenant ça, cette technique-là, on donne la permission à tout le monde de continuer à rire malgré tout.
Mm-hmm. Donc, l'accompagnement de personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer à leur famille, est-ce que ça pourrait convenir à d'autres personnes?
Oui, moi, disons qu'avec le rire, là, je vous dirais que je travaille beaucoup avec les gens qui ont la maladie d'Alzheimer.
Mm-hmm.
Je travaille beaucoup avec les aînés. Finalement, il y a très peu de gens qui n'ont pas besoin d'ajouter du rire dans leur vie.
Ça, c'est vrai, parce qu'on n'en a jamais de trop, ça. Sylvie Dagenais-Douville, j'imagine que ça peut être assez efficace aussi pour des gens qui traversent un épisode dépressif.
Oui, parce que justement, on parle là, quand on comprend notre stress, là, on arrive avec le rire là, à comprendre là, pourquoi, comment est-ce qu'on arrive justement à atténuer l'anxiété, la dépression. On parle là, en gros aussi du système, notre système là, de réaction au stress, qui est notre système sympathique, là,
oui.
Quand on parle de fuir le mammouth. Là.
Oui.
Et puis après ça, avec le rire, on arrive à engager justement notre système parasympathique qui rassure finalement notre système nerveux, qui nous ramène, on parle souvent des bienfaits de la méditation aussi à l'intérieur de ces outils de vie-là. Et puis, faut savoir que le rire, c'est une méditation. On ne rit pas ni au futur ni au présent.
C'est vrai.
Au passé, on rit dans le présent.
Mm-hmm.
Alors, c'est toutes ces choses-là, finalement, qui s'enchaînent. Et le rire, moi, je ne peux pas le voir autrement qu'un outil de vie. C'est notre petite pharmacie interne, là, puis il faut savoir que c'est là pour nous accompagner.
En effet, on oublie que c'est toujours accessible, ça coûte rien du tout, toujours présent, donc le rire. Je disais même que c'est un antioxydant parce que ça génère des hormones dans notre corps qui nous permettraient de prévenir certaines maladies. Et pharmacie individuelle ou personnelle, je trouve que c'est assez bien dit. Dernière question peut-être, avec
oui.
le temps qui nous reste, Sylvie Dagenais-Douville.
Oui.
Pour inclure le rire dans notre quotidien, est-ce que c'est de se ramener au présent, donc?
Oui, c'est sûrement de se ramener au présent, mais on parle seulement dans la langue française, on dit le sourire. Alors, si on peut commencer tranquillement, là, prendre conscience de nombre de fois qu'on a l'air trop sérieux et puis de commencer par justement s'accrocher à un sourire, parce que c'est certain là, que d'arriver à rire seul, ça se fait, ça se développe, ça s'apprend, mais si on peut remplacer tous ces petits moments-là là, qu'on a l'air trop sérieux
oui.
par un sourire, déjà ça rassure notre système.
C'est déjà un bon début. Vous nous laissez en terminant votre site web, s'il vous plaît?
Oui, là vous pouvez me trouver, moi, l'Institut du rire. Là,
très bien, on dirigera nos auditeurs vers l'Institut du rire. Sylvie Dagenais-Douville, vous êtes la fondatrice de cet institut, également professeure de yoga du rire et conférencière. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler et je vous adresse mes prochains sourire, Sylvie.
Merci.
Merci.
À une prochaine. Au revoir.
Merci, Jean-Sébastien. Rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.